Midi 13h, Sud Radio dans tous ses états, Benjamin Glaise.
Et oui, jour de réveillon ce vendredi, jour de fête un peu gâché pour certains par la crise sanitaire et le Covid. Pensez bien sûr à ceux qui se sont isolés, la faute à un test qui s'est révélé être positif. Pensez aussi à ceux qui vont réveillonner seuls pour d'autres raisons. En tout cas, Sud Radio, parlons vrai, on continue plus que jamais de vous accompagner. Au programme aujourd'hui, un maire qui alerte sur le port du voile lors des sorties scolaires. On parlera également de nos jeunes qui n'en peuvent plus, de la crise du corona. Et puis l'écologie, mais quelle écologie pour demain? Autant de sujets et de questions qu'on va se poser jusqu'à 13h. Allez, vous pouvez mettre la dinde au four, nous revient dans un instant sur Sud Radio.
Midi 13h, Sud Radio dans tous ses états, Benjamin Glaise.
Le midi 13h de Sud Radio qui vous accompagne en pleine préparation du réveillon, mais ça va pas nous empêcher de poser des questions qui fâchent. En tout cas, à 3 jours de la rentrée scolaire, elles sont nombreuses sur le plan sanitaire, bien sûr, mais pas seulement, puisque le maire de Chalon-sur-Saône lance un cri d'alerte. Il dénonce les dérives islamistes, notamment constatées lors des sorties scolaires, et il nous fait le plaisir d'être avec nous pour en parler ce midi.
Sud Radio dans tous ses états, midi 13h. Benjamin Glaise.
Bonjour Gilles Plâtrer.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur Sud Radio, maire de Chalon-sur-Saône, donc, mais aussi vice-président national Les Républicains, co-président du groupe Laïcité de l'Association des maires de France. Vous avez saisi le directeur académique de Saône-et-Loire pour les dérives que vous constatez au sein des écoles et notamment dans le cadre des sorties scolaires. Déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à agir? Est-ce qu'il y a un événement en particulier qui vous a marqué ces derniers jours, Gilles Plâtrer?
Oui, bien sûr, il y a un événement très précis, c'est à l'issue d'une rencontre, tout simplement, avec un groupe d'élèves accompagnés par un certain nombre de mamans, dont l'une était clairement une maman salafiste, complètement vêtue de noir, de pied en cap, et qui accompagnait le groupe. Donc je me suis senti la nécessité de réagir auprès des autorités académiques. Vous savez qu'il y a un débat depuis longtemps sur cette question, qu'une circulaire a été abrogée, qu'on appelait la circulaire Châtel, qui interdisait à tout parent accompagnant de montrer un signe distinctif de religion, tout simplement par respect de la laïcité, par respect des consciences des enfants. Et cette circulaire a été abrogée, donc aujourd'hui des mamans voilées en particulier peuvent accompagner les sorties scolaires, mais là on est dans un degré supérieur, c'est que c'est carrément une maman salafiste, hein, voilée complètement de noir, qui accompagne une sortie scolaire. Et on sait très bien que c'est de la propagande à l'état pur, et on peut pas laisser ça sans réagir. Donc j'ai saisi le directeur académique de Saône-et-Loire pour qu'il nous dise quelle est sa vision des choses. Les premiers échos que j'ai reçus par voie de presse de sa part montrent qu'il n'est pas conscient du problème, mais je vais clairement attendre la rentrée et le relancer si j'ai pas d'informations de sa part assez vite.
Vous l'avez dit, pour le coup, ce n'est pas un comportement a priori illégal, en tout cas qui rentre dans le cadre de la loi. Qu'est-ce que vous attendez concrètement, du coup, de la part, justement, de cet appel, d'une part, et puis de la réaction éventuelle du directeur académique?
Si vous voulez, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est effectivement le fait que la circulaire de 2012 n'existe plus. Donc aujourd'hui, et je le regrette sévèrement, des mamans voilées ou d'ailleurs arborant un quelconque autre signe de religion, parce qu'encore une fois, la laïcité ne fait pas de détails entre les religions, elle n'en reconnaît aucune. Donc des mamans peuvent arborer des signes religieux sans que ça pose problème. Sauf que là, ce que je relève, donc si ça tenait qu'à moi, évidemment, il n'y aurait aucun signe religieux et donc pas de maman voilée pour accompagner les sorties scolaires. Mais là où je lance un cri d'alerte, c'est que nous avons maintenant sous couvert du voile des stratégies politiques, et on sait très bien que les salafistes en particulier sont les plus en pointe dans le séparatisme vis-à-vis de la République française, et que par conséquent, on les laisse accompagner des enfants. Et ça, pour moi, ça n'est pas possible. Donc c'est là-dessus que j'ai interpellé le directeur. Je fais bien deux niveaux, hein, le niveau réglementaire, même si je le regrette qu'il le permet aujourd'hui, et un niveau beaucoup plus politique et religieux, et ça, à mes yeux, c'est pas possible, donc ça, il faut l'interdire absolument.
Alors Gilles Plâtrer, ça aurait pu évoluer justement récemment avec le projet de loi, hein, la loi sur les séparatismes et le Sénat à majorité de droite qui avait voté justement pour l'interdiction des signes religieux pour les accompagnateurs de sorties scolaires. Finalement, la majorité présidentielle, la majorité à l'Assemblée en avait décidé autrement. C'est quelque chose que vous regrettez, j'imagine, fortement du coup.
Mais oui, parce que comment voulez-vous vous y retrouver? On demande aux enseignants, et heureusement d'ailleurs, de n'arborer aucun signe religieux. On demande aux enfants de n'arborer aucun signe religieux. Lorsqu'une enfant arrive à l'école avec un voile, par exemple, on lui demande de l'enlever. Bon. Et on permet à des parents qui ont des signes religieux d'accompagner des sorties scolaires, qui sont une émanation du service public d'éducation nationale. Ça se passe pendant le temps scolaire. Comment voulez-vous que les gamins s'y retrouvent? À un moment donné, il faut être cohérent, donc il faut être républicain jusqu'au bout. Et être républicain jusqu'au bout, c'est aucun signe religieux quelles que soient les circonstances, dès lors que l'enfant est sous la responsabilité d'Éducation nationale, aucun signe religieux. Et si on arrivait à accepter ceci, comme les sénateurs ont essayé de le faire, mais hélas, la majorité l'a rejeté, si on arrivait à exercer cette sévérité, cette neutralité complète, eh bien, on rendrait service à la République. Mais comme toujours, on a peur de froisser certaines communautés, et donc on laisse les enfants finalement subir un prosélytisme plus ou moins soft, et ça n'est pas acceptable à mes yeux.
Vous parliez des enseignants, Gilles Platret, plus d'un jeune professeur sur deux approuve le port de ces signes religieux par les parents accompagnateurs. C'est ce que révélait récemment un sondage IFOP pour la Fondation Jean Jaurès. C'est de nature à renforcer ici vos inquiétudes à ce sujet ?
Oui, je pourrais opposer à ce sondage que vous avez cité un autre sondage qui montre que plus de deux tiers des Français y sont opposés. Donc, moi, je pense que le bon sens, comme d'habitude, est dans le peuple français. Il sait très bien aujourd'hui qu'on a des mouvements dans le pays qui sont des mouvements séparatistes qui montent et que, hélas, on les laisse trop avancer. Moi, je vais vous dire une chose. Ces mamans, elles sont pas nées avec un voile sur la tête. Donc, si elles l'ont, eh bien, elles prétendent en plus qu'elles sont libres. Eh bien, si elles l'ont, à ce moment-là, elles l'enlèvent au moment de la sortie scolaire. Et il n'y aura plus aucun problème. Ce n'est pas le problème que ces mamans accompagnent, c'est qu'elles mettent un signe religieux pour accompagner. Encore une fois, si elles sont libres, elles enlèvent le voile le temps de la sortie, elles le remettent après, ça n'est plus notre affaire, mais au moins, on aura respecté la neutralité vis-à-vis des jeunes consciences des enfants. Et c'est ça qui m'importe plus que tout. C'est les enfants qui comptent, c'est pas les communautés, c'est l'individu qu'on forme à l'école, c'est pas telle ou telle religion. C'est ça la neutralité, c'est ça la laïcité, et c'est pour ça que de temps en temps, il faut sonner, comme je l'ai fait, la sonnette d'alarme, tirer la sonnette d'alarme pour rappeler à chacun que c'est aussi le destin de notre pays qui est en jeu.
Gilles Platret, on parle du port du voile, là il y a le port du masque aussi pour le coup qui est dans l'actualité plus que jamais. De plus en plus de villes prennent justement des décisions pour le port du masque obligatoire en extérieur. On sait que ça fait énormément débat. Qu'en est-il chez vous du côté de Chalon-sur-Saône actuellement, Gilles Platret ?
Alors, il y a une rhétorique, vous me donnez l'occasion de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Il y a une rhétorique du gouvernement qui dit, notamment Monsieur Véran, Monsieur Castex, que tout ça appartient à une négociation entre le préfet, le maire, etc. C'est du pipeau complet. Moi, je peux vous dire qu'à Chalon-sur-Saône, il n'y a pas eu de concertation. On nous a demandé vaguement ce qu'on comptait faire. Nous, je vous donne un exemple très simple. Vous interrogez un maire autant qu'on parle de la commune que je connais bien. J'avais proposé au préfet que plutôt que d'avoir une interdiction générale qui n'a aucun sens, quand vous êtes tout seul dans une rue, vous devez porter le masque. C'est complètement idiot. Mmh. J'avais dit, mais en cas d'affluence, et chacun est clairement assez malin pour savoir ce qu'est l'affluence quand vous êtes dans une rue où effectivement il y a beaucoup de monde.
Les rues commerçantes, les marchés,
Oui, puis même tout simplement le passant dans la rue. À ce moment-là, on impose le masque, ce qui est assez logique. Eh bien, évidemment, le refus est tombé et on n'a même pas été prévenu à l'avance, si vous voulez. On a appris par la presse le texte de l'arrêté du préfet. Donc, on voit bien qu'il n'y a aucune concertation. De nouveau, l'État est incapable de donner clairement la parole aux élus et fait des bêtises. Encore une fois, je ne suis pas opposé au masque par définition. C'est un moyen de protection comme un autre. Mais quand vous êtes tout seul dans une rue qui, elle, est dans l'arrêté du préfet qui impose le masque, vous accepterez quand même de considérer avec moi que ça n'a aucun sens. Et donc, finalement, ça discrédite complètement l'action du gouvernement. C'est comme ça qu'on arrive à faire des bêtises, finalement, en n'écoutant pas simplement les élus qui, au contact de la population, essayent de trouver des solutions de bon sens.
Gilles Platret, je rappelle, vous êtes maire de Chalon-sur-Saône, donc vice-président national des Républicains et co-président du groupe Laïcité de l'Association des maires de France. Une dernière question tout de même sur cette campagne présidentielle largement chamboulée, bien sûr, par cette crise sanitaire, ce variant Omicron. Valérie Pécresse avait décidé de prendre des mesures assez drastiques vis-à-vis des meetings politiques, justement en décidant pour l'instant en tout cas de ne pas en faire et éventuellement de prendre des mesures importantes. Si on s'oriente vers éventuellement un pass demandé à l'entrée des meetings et puis des jauges éventuelles. Est-ce que vous y seriez favorable ?
Écoutez, que ça pourrait aider ? Moi, je pense que cette question que vous soulevez, elle a été amenée d'ailleurs par un député de ma région, Guillaume Larrivé, député d'Auxerre, qui proposait d'inscrire dans la loi la possibilité de demander un pass à l'entrée des meetings. Bon, vous savez, dans la pratique, c'est un petit peu ce qu'on fait. On vient de sortir d'un épisode de sélection entre nos candidats à l'élection présidentielle chez les Républicains. Et régulièrement, à l'entrée des réunions qu'on organisait, on demandait simplement un pass sanitaire pour être sûr qu'il n'y ait pas de danger. Moi, je dis simplement une chose, il faut qu'on fasse très attention. Bien sûr que ça crée une différence et je comprends que certains artistes hurlent en disant finalement notre concert est pas plus dangereux qu'un meeting politique. Et ils ont raison sur le fond. Mais le risque, c'est qu'on finisse par ne plus rien faire du tout. Donc moi, je suis favorable à ce que les organisateurs soient responsables, qu'ils assurent la sécurité des personnes qu'ils accueillent, mais qu'on n'empêche pas les organisateurs, quel que soit d'ailleurs le type d'événement, un meeting politique ou un autre événement culturel, parce qu'on en a autant de besoin que de la politique, la culture, qu'on puisse simplement faire confiance à la responsabilité. C'est pas ce qu'on fait dans, avec ce gouvernement depuis deux ans. On abêtit les Français et finalement on les infantilise. Je trouve que c'est une erreur. Donc faisons confiance à ceux qui organisent. La loi, d'ailleurs,
la responsabilité
parlementaire permettra d'avancer, j'espère, sur cette question.
On verra bien. En tout cas, merci beaucoup, Gilles Platret, maire LR de Chalon-sur-Saône. Et bon réveillon à vous, bien sûr.
À vous aussi.
Allez, Sud Radio, merci, merci. Et merci aux auditeurs, effectivement, aux nouveaux auditeurs aussi qui nous rejoignent. C'est la bonne nouvelle, puisque depuis cette semaine, nous sommes présents en DAB+, dans 5 nouvelles villes, Chambéry, Annecy, Annemasse, Saint-Étienne et Roanne. C'était déjà le cas dans une vingtaine de villes, notamment Lille, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux. Le DAB+, pour rappel, hein, c'est la nouvelle façon d'écouter Sud Radio. Bah oui, il y en a une nouvelle sur les appareils autoradio compatibles. Ça fait du bien. Restez bien avec nous, en tout cas sur Sud Radio, dans un instant, notre jeunesse face à cette crise du Covid. À tout de suite.
Midi 13h, Sud Radio dans tous ses états, Benjamin Glaise.
La suite du midi à 13h sur Sud Radio. Et deux ans que la France fait face à cette crise du Covid, entre confinement, couvre-feu, distanciation sociale et restrictions en sens large. Difficile parfois de tenir bon, il faut l'avouer, d'autant que malheureusement, on ne voit pas toujours le bout du tunnel. En tout cas, en ce moment, cette situation, elle nous touche tous. Mais aujourd'hui, à quelques heures du réveillon, eh bien, on s'intéresse, on pense à nos jeunes qui n'ont pas tous l'esprit à la fête cette année.
Sud Radio dans tous ses états, midi 13h. Benjamin Glaise.
Et pour en parler, nous recevrons dans un instant Jean-Pierre Vouche, qui est psychologue clinicien, spécialiste des urgences post-traumatiques. Mais d'abord, je vous propose qu'on accueille Alex, 26 ans. Bonjour Alex et bienvenue.
Bonjour, merci.
Et merci d'avoir accepté de témoigner ce midi sur Sud Radio. Ça fait bientôt deux ans que vous vivez, comme tous les Français, cette crise du Covid. Quel bilan vous faites justement pour vous, à titre personnel, de ces bientôt deux ans passés sous Covid?
Bah, à titre personnel, le bilan, clairement, il est négatif au vu de l'environnement de travail, parce que c'est des études de travail, c'est on sera un entraîneur.
Alors, mon cher Alex, on vous entend assez mal. On va essayer justement de vous décaler un petit peu. Alors, sans prendre de risque, vous penchez pas trop par la fenêtre. Oui, on vous entend parfaitement. Là, voilà, c'est beaucoup mieux. Vous disiez que le bilan était négatif, Alex. Effectivement, que c'était dur.
Oui, parce que clairement. On est amputé de tout ce qui fait d'une partie de ce qui fait notre vie étudiante, c'est-à-dire on a encore les cours, mais enfin on suit difficilement les cours, c'est-à-dire c'est du distanciel. On ne peut pas participer à la vie associative de notre établissement, même de notre ville comme on veut. On peut plus voir les copains, c'est compliqué de voir la copine, le copain, enfin voilà.
Bien sûr. On ne
vit pas la vie d'un étudiant comme on devrait la vivre en fait. C'est dommage, c'est des super années d'une vie, se passer son cursus avec ses potes, la relation avec
vous,
les profs.
Je crois savoir, Alex, que vous êtes un passionné de rugby, que vous faisiez du rugby, et ça, c'est quelque chose qui vous a sans doute manqué.
C'est ça, tout ce qui est la vie sociale, le sport, tout ça, clairement, on fait une croix dessus. De toute façon, c'était fermé. C'était fermé l'année dernière, ça fait saison blanche, pas que pour rugby, mais pour plein d'assauts.
Bien sûr.
Là, c'est actuellement le cas encore, il y a plein de clubs de rugby amateur, mais enfin, ça doit être pareil pour les autres sports qui sont en stand-by vu la situation actuelle sanitaire. Donc voilà, tout ça c'est plus possible, c'est...
Vous avez peur, alors parmi ces bouleversements sociaux, affectifs, professionnels, psychologiques, vous avez peur que certains soient irréversibles? Comment vous le voyez, votre avenir, Alex, aujourd'hui?
C'est irréversible dans le sens où déjà c'est une perte de temps, je trouve, dans nos études. C'est-à-dire, je suis sûr que ça a biaisé le parcours de plein d'étudiants qui n'ont pas pu vraiment...
Vous-même
Pardon?
Vous-même?
Ouais, moi-même, personnellement, je l'ai ressenti, enfin, j'aime bien l'école de base, j'aime bien la synergie qu'il y a entre les élèves, le contact avec les profs, tout ça, c'était pas possible. Là, je viens de terminer un cursus de 2 ans à BTS.
Ouais.
Donc voilà, c'était pile la période Covid. Enfin voilà, j'ai, enfin ça a commencé en même temps, quoi. Et ça s'est pas hyper bien passé. Enfin voilà, je me suis focus sur le boulot, mais ça a pas payé au final parce que je sentais que les conditions ne me convenaient pas, quoi.
Parce que dans la tête, ça suffisait pas, c'était difficile.
Ouais, non, dans la tête, clairement. Et pour le coup, je suis pas le seul. On a parlé
Bien
avec
sûr.
plusieurs étudiants. Il y en a avec qui ça. Enfin, le contexte actuel au niveau des études ne s'en fait pas vraiment ressentir. C'est-à-dire, ils s'accommodent très bien du distanciel, de voilà, être un petit peu seul justement et être boulot focus sur les études. Mais enfin, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a qui ont besoin de décompresser, qui ont besoin de voir d'autres gens, de faire des rencontres. Et c'est bénéfique pour leur niveau d'études, je trouve. Moi, bah, du coup, ça m'a pas vraiment aidé tout ça.
C'est là où ça a été
Voilà,
compliqué.
c'est-à-dire l'année dernière,
Ouais.
c'était pas de Noël, c'était pas de Nouvel An, c'était tout seul en train de réviser. C'était voilà.
Ouais, et tout ça pour que ça paye pas au final. En tout cas, Alex, courage bien sûr pour la suite. Et puis un bon réveillon quand même. Vous avez prévu quelque chose avec des amis quand même?
Ouais, ce soir du coup, ouais. On se sent un petit
Et bah
comité,
voilà.
voilà. Covid oblige, mais
En
voilà.
faisant attention bien sûr. Bon, en tout cas, profitez bien de votre réveillon et bon courage pour la suite, Alex. Merci à vous.
Merci à vous. Au revoir.
Allez, on poursuit justement avec Jean-Pierre Vouche qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour et bah écoutez, courage pour Alex et les autres.
Ben oui, vous l'avez entendu. Hein. Je rappelle hein, pour nos auditeurs, je le disais tout à l'heure, vous êtes psychologue, clinicien, spécialiste des urgences post-traumatiques. Vous l'avez entendu, hein, le témoignage à l'instant d'Alex. Il vous inspire quoi ce témoignage?
Bah, il rejoint les observations qu'on a pu avoir sur des jeunes qui ont été confinés, mais aussi ceux qui actuellement, parce qu'ils sont testés positifs, obligés de rester des fois seuls, complètement seuls dans leur appart, pour, on va dire, les tranches 18-25. Mais sinon, globalement, ce que moi j'ai pu observer, mes collègues, c'est un impact sur le mode de vie des jeunes, quoi, hein, et la peur pour soi, la peur aussi pour leurs proches. Donc la Covid, bah, ça a imprimé une pensée mortifère, hein, dans la durée quand même, parce que 2 ans
ouais.
Comme ça. Le stress, hein, ça entraîne aussi des difficultés psychologiques qui sont durables. Les médecins, hein, avec qui je suis en collaboration, ils voient des syndromes de stress post-trauma, avec donc des signes de grande fatigabilité, et on observe que ni le sommeil et le repos ne semblent soigner. Donc il y a des troubles aussi, comme Alex le précisait, des troubles cognitifs, hein, des difficultés de concentration intellectuelle, de problèmes d'organisation,
ouais.
des troubles de l'attention, l'impression, la sensation de tourner en boucle avec des ruminations, et puis une sorte d'anesthésie aussi de leurs sensations, hein, sensations même d'étrangeté de l'environnement. Je prends un exemple, hein, un étudiant
Bien
qui
sûr.
Était à Édimbourg, bon, il était tout le temps seul face à son ordinateur, il est revenu en France, il était complètement à côté de la plaque, hein, il est venu consulter à cause de ça, quoi. Donc,
Mais ça veut dire,
oui.
Jean-Pierre Vouche, quand on fait, alors c'est important sur les termes qu'on utilise, vous avez parlé notamment de syndrome traumatique d'une certaine
Post-traumatique, ouais.
phase post-traumatique.
Ouais.
Quelle différence on fait à ce moment-là entre un jeune qui justement subit une forme de dépression, qui est victime d'une dépression, et un autre qui va avoir justement, où on va parler de syndrome post-traumatique.
Alors,
quelle est la différence entre les deux?
Alors la différence, c'est que le post-trauma, c'est un trouble fonctionnel et pas non et qui n'est pas structurel, alors que la dépression va être structurelle. Et donc, ce qui est intéressant et positif, c'est que ces troubles-là sont réversibles sur le temps. Donc c'est le côté rassurant, c'est qu'ils n'en prennent pas pour 15 ans, quoi. Mais c'est clair que pendant 1 ou 2 années, on est déstabilisé, hein, avec adieu la légèreté, l'insouciance, l'humour, la patience, et puis les sorties entre copains, etc. Bon, moi je fais partie aussi d'un club de rugby sur la Baule. Je vois, les matchs sont annulés, ils fulminent dans leur coin, et on se renvoie plutôt chez le kiné, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, pour essayer d'avoir des relations sociales minima, quoi. Hein. Voilà, donc on voit quand même pour l'ensemble des jeunes, et même des plus jeunes enfants, hein, des souffrances psychologiques avec une perte des facultés, atteinte aussi l'intégrité, puis le sentiment de vide. Voilà. Donc,
bien sûr. Et vous le disiez donc pas, oui. pas, oui. Et vous le disiez, ce n'est pas en l'occurrence irréversible. C'est, mais par oui. contre, ça risque de laisser des traces sur le moyen terme, en tout cas, si je vous entends bien, Jean-Pierre.
C'est ça, oui. J'irais ici maintenant et à moyen terme, oui. Hein, et avec un trouble de l'altérité, un trouble aux autres dans le rapport avec les autres qui sont apparus, et aussi des troubles somatiques un peu diffus. Hein, on se plaint de ceci, de cela, alors qu'ils n'avaient pas ça jusqu'à présent. Quoi.
Voilà, donc, pour les parents qui nous écoutent, Jean-Pierre Vouche, et certains s'inquiètent peut-être pour leurs enfants, c'est quoi les signaux qui doivent les alerter éventuellement?
Un repli sur soi, moins d'appels téléphoniques, ou alors des appels téléphoniques, mais un peu dans l'urgence, avec le besoin de réassurance. Et puis des crises de larmes, voire des idéations suicidaires, on a pu en avoir. Hein. Et chez des jeunes dans la.
Et France, vous avez eu une augmentation justement importante, c'est ce que vous constatez sur ces idées suicidaires, sur ces dépressions aussi.
Alors, réactionnel. Hein, donc, je dis bien, c'est réactionnel. C'est pas quelque chose d'installé dans le trouble de la personnalité. Mais on a eu une augmentation. Et même, moi, ma grande surprise, sur des tranches d'âge inférieures à 18 ans. Donc, dans la tranche 13-18, ils vivaient très très mal les alternances où on n'allait plus au collège, au lycée. Donc ça entraînait. Puis la perte des relations avec les copains, tout ça, ils s'en plaignaient énormément. Quoi, hein, donc. Et les familles, confinées à une époque. Donc ça augmentait les stress internes. Avec des conflits, des réactivités fortes, de l'agressivité, les signaux, c'est en effet des troubles relationnels et puis des alarmes aussi sur les questions somatiques, des problèmes intestinaux, beaucoup plus nerveux ou au contraire très apathiques. Ouais. Tout ce qui est un peu des changements par rapport à la dynamique du jeune habituel doit être une alarme pour les parents.
Qu'est-ce qui a été le plus dur à affronter pour ces jeunes que vous entendez, que vous rencontrez, Jean-Pierre Vouche? Ça a été par exemple le couvre-feu, le confinement total, ouais. Ça a été la durée, l'installation finalement de cette crise?
Alors, c'est le confinement, oui. Le couvre-feu aussi par rapport à des activités externes. Et le problème, c'est durable, quoi. Donc, on passe 6 mois, ça va, mais si on est sur 2 ans, voire même, on va peut-être prolonger, c'est un état d'épuisement. Ils ont l'impression d'avoir perdu leurs années, quoi. C'est un gâchis, quoi, une sorte de gâchis par rapport à leurs belles années, quoi. Et donc, il y a aussi un peu un sentiment de révolte, et puis des fois, contre le système, l'autorité, en disant « mais ils sont à côté de la plaque, qu'est-ce qu'ils nous font ?» Donc, ça a du mal à passer, hein, les décisions politiques pour certains jeunes. Hein.
Et avec l'importance aussi de communiquer, de discuter aussi entre générations, c'est important ça pour que les plus âgés comprennent aussi les souffrances des plus jeunes. C'est pas toujours facile à entendre aussi.
Ouais, moi je sais que l'année dernière, hier, je me dis mais qu'est-ce que je faisais le 31 et le 1er l'année dernière. Le maire de La Baule m'avait demandé d'intervenir dans des EHPAD parce qu'il voyait plus les petits enfants et les enfants. Et puis, j'intervenais auprès aussi de familles au moment des fêtes qui me disaient nos gosses ils vont pas bien, quoi. Donc en fait, j'ai passé mon temps à soutenir les gens, à travailler, que ce soit sur des tranches d'âge très âgées, mais aussi chez des jeunes et qui avaient aussi des soucis, hein, dans le sens je vois plus ma grand-mère depuis X mois, quoi, mes grands-parents. Donc, ça avait un impact au niveau intrafamilial, quoi.
Qu'est-ce que vous conseillez justement pour les jeunes qui nous écoutent, ou les parents ou les grands-parents qui vont conseiller justement leurs enfants, petits-enfants, pour éviter que ça ne bascule, ou pour en tout cas faire en sorte qu'ils le vivent le mieux possible cette période?
Bah, ils trouvaient tous les canaux de communication possibles. Donc si on peut pas les voir en présentiel, on peut se voir sur le net, on peut faire des vidéos. Moi je sais qu'il y a eu une recrudescence des consultations vidéo. Ça m'a permis de travailler à distance, hein, donc sur la Suisse, Paris, etc., en province. Donc je pense qu'il faut... Et puis des courriers aussi, hein, pour parler de ses sentiments, des enfants vis-à-vis des grands-parents, je vous vois plus, mais sachez que mon amour est toujours là. Enfin, bon, ça, c'est tous ces messages de, je dirais, de renforcement.
Les petits gestes, les petits messages.
Mmh. Ouais, et ça, il faut que ça trouve, en effet, des canaux très différents. Si on peut pas aller les embrasser dans tel ou tel lieu, hein, voilà. Donc ça, je pense que il faut être créatif là-dessus, et puis pas remettre au lendemain, parce que et comme ça dure, il faut démultiplier ça. Hein, et donc je conseille que les parents aident les enfants, petits enfants, à trouver tous les moyens de communication et de réassurance affective vis-à-vis des anciens, et inversement, les anciens trouvaient aussi le moyen de... Je donne un exemple, hein, dans une EHPAD, il y a des parents, ils ont pris des photos des gamins, ils en ont fait un livre et ils l'ont envoyé pour cadeau de fin d'année, quoi. Moi, j'ai vu les grands-parents, ils avaient les larmes aux yeux, en disant, on les voit plus, mais là, ça va, on est toujours, on accroche avec eux, quoi.
Bien sûr, et on donne alors un site internet santépsy.étudiant.gouv.fr hein, pour justement se faire aider gratuitement. Il y a le chèque psy qui existe aussi depuis le 1er février pour les plus jeunes, pour consulter gratuitement un psychiatre ou un psychologue. C'était important aussi de le rappeler. Ouais. Merci beaucoup Jean-Pierre Vouge d'avoir été avec nous ce midi sur Sud Radio.
Mes bons voeux pour tout le monde, et puis j'espère qu'on y verra plus clair l'année prochaine.
Eh bien, on l'espère tous, et merci à vous, et je vous souhaite aussi tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année. En tout cas, je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes donc psychologue, clinicien, spécialiste des urgences post-traumatiques. Merci à vous, et bonne fin d'année, bien sûr. Allez, dans un instant, Sud Radio, l'écologie, ou plutôt les écologies, y en a-t-il une qui serait préférable aux autres? On en parle avec Bertrand Alliot, auteur de l'ouvrage « Une histoire naturelle de l'homme, l'écologie serait-elle une diversion ?» A tout de suite sur Sud Radio.
Midi 13h, Sud Radio dans tous ses états, Benjamin Glaise.
La dernière partie du midi 13h sur Sud Radio, et c'est l'une des grandes préoccupations des Français. Bientôt 3 mois de la présidentielle, l'environnement devenu un sujet essentiel pour 36% des Français. Un chiffre en hausse de 16 points par rapport à 2017. Pourtant, la candidature de l'écologiste Yannick Jadot ne décolle pas. Mais quand on évoque l'écologie, de quelle écologie parle-t-on? Existe-t-il une autre écologie possible que celle qu'on nous prédit? L'apocalypse? On voit ça tout de suite sur Sud Radio avec notre invité du face-à-face.
Sud Radio dans tous ses états, midi 13h, le face-à-face.
Et notre invité du face-à-face est docteur en sciences politiques, auteur du livre « Une histoire naturelle de l'homme, l'écologie serait-elle une diversion ?» aux éditions L'Artilleur. Il est également porte-parole de l'association Action Écologie. Bonjour Bertrand Alliot.
Bonjour Benjamin Glaise.
Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Alors commençons par l'actualité. L'appel que vous avez lancé tout récemment, vous demandez la démission de Barbara Pompili, l'actuelle ministre de la Transition écologique. Pour quelle raison, Bertrand Alliot?
Oui, en effet, vous savez que la France connaît actuellement des tensions sur le marché de l'électricité, et que Madame Pompili a même convoqué le PDG d'EDF, hein, et elle lui a demandé un rapport sur l'optimisation des
arrêts. Un audit, ouais.
Exactement, sur l'arrêt des réacteurs. Mais il faut savoir quand même que cette dame est issue d'un parti politique qui s'appelle Europe Écologie Les Verts, et qui est anti-nucléaire, c'est bien connu depuis très longtemps. Elle a participé à ce gouvernement qui a fermé les réacteurs, la centrale de Fessenheim, une centrale nucléaire qui pourvoyait de l'électricité, une électricité bas carbone, décarbonée. De même qu'on a vu que le gouvernement a fermé une centrale au charbon il n'y a pas très longtemps au Havre. Et donc, en fait, vous savez, un des premiers... pour être écologiste, il faut conserver ce qu'on a, ce qui fonctionne. Et aujourd'hui, en fait, Barbara Pompili programme l'obsolescence de centrales qui fonctionnent. Donc,
c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes en train de nous dire que effectivement, on peut être écologiste tout en défendant la filière nucléaire aujourd'hui.
Oui, absolument, parce que la filière nucléaire fournit une électricité abondante et bon marché. Et surtout, la France a fait le choix il y a très longtemps du nucléaire. Et donc, ce sont des capitaux que nous avons accumulés sur notre territoire. Ce sont des usines qui fonctionnent, encore une fois. Et mettre à la poubelle véritablement des usines qui fonctionnent, c'est un comportement anti-écologiste. Et donc là, on voit que ce sont des pompiers pyromanes, en fait. Et aujourd'hui, si la centrale de Fessenheim n'était pas fermée, eh bien, la France aurait moins de difficultés sur l'approvisionnement en électricité. Il y a de véritables risques de blackout la ministre la reconnaît, mais elle est en grande partie responsable de ces risques. Et donc, il faut
parce que cette dame prenne ses responsabilités. Vous pointez du doigt, au-delà de Barbara Pompili, vous pointez du doigt notamment certains politiques, et notamment du côté d'Europe Écologie Les Verts, Cécile Duflot, notamment l'ancienne secrétaire nationale du parti, qui avait en fait notamment demandé à l'époque pour 2012, pour une alliance potentielle avec le PS, de fermer Fessenheim. Et c'est ça que vous pointez du doigt aussi, c'est cette responsabilité-là.
Oui, mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que Cécile Duflot, vous savez, elle était donc ministre du gouvernement qui a fermé Fessenheim. C'est elle qui a obtenu la fermeture de Fessenheim. Mais ensuite, lorsqu'elle est sortie du gouvernement, elle a été directrice, et elle est toujours d'ailleurs, de Oxfam France. Et Oxfam France, avec la fondation Nicolas Hulot, d'ailleurs, Nicolas Hulot était aussi ministre. Et donc, ces gens-là, une fois, ils sont au gouvernement, ils ferment les centrales qui produisent de l'électricité sans faire de CO2, pour faire simple. Et lorsqu'ils sont en dehors du gouvernement, ils attaquent le gouvernement parce que le gouvernement ne respecte pas ses engagements en termes de CO2. Vous voyez dans quel... en fait, on est dans un monde de fous. Les mêmes qui sont à la fois au gouvernement ou qui sont en dehors, ils font tout pour que la France soit moins performante en termes de CO2. Donc, ce ne sont pas des écologistes. Il faut savoir ça, ce sont des idéologues. Et c'est pour ça qu'on essaye, à Action Écologie, d'avoir une voie de l'écologie un peu différente au niveau national, pour contrer ces idéologues dont on ne comprend pas bien l'action, en fait.
Parce qu'après, sur la question du nucléaire, par exemple, on peut comprendre certaines inquiétudes sur la question du traitement des déchets, sur le vieillissement du parc nucléaire français. C'est des questions qui se posent. Pour vous, en fait, le focus, d'une certaine façon, par exemple, d'Europe Écologie Les Verts sur le nucléaire, c'est ça reste vraiment totalement idéologue. Il n'y a pas des raisons concrètes, quand même, de s'inquiéter, d'avoir une forme d'inquiétude?
Mais écoutez, je crois que les risques sont maîtrisés. D'abord, il faut savoir que toute production électrique dans le monde comporte des risques. Hein. Vous savez ce qui se passe dans les mines aujourd'hui en Chine et les accidents qu'il peut y avoir pour avoir de la matière première qui va faire des panneaux solaires ou des éoliennes. Si on faisait le bilan en nombre de morts, vous seriez très surpris. Hein. Et donc, non, le risque est maîtrisé aujourd'hui en France. Mais surtout, encore une fois, la France a fait un choix. Et donc, on a accumulé, si vous voulez, des ressources, des capitaux, des usines. Et aujourd'hui, les mettre au rebut, c'est vraiment une attitude anti-écologique. Il faut conserver ce qui fonctionne et ce qui marche. Et donc, voilà. Et mettre l'accent sur des énergies intermittentes, que sont l'éolienne et le solaire, c'est absolument aberrant aujourd'hui. Vous savez qu'on est en train de détruire des forêts, notamment dans les Landes, pour mettre des forêts de... on est en train de détruire plus exactement des forêts d'arbres pour mettre des forêts de panneaux solaires. Et donc, on est en train de détruire la nature, et la nature, ça a été le premier, comment dire, c'est comme ça qu'a commencé le combat écologiste, hein, c'est écologique.
On pense aussi aux éoliennes avec le bétonnage aussi de certaines zones avec les éoliennes. On peut aussi parler de cela. Bertrand Alliot, au-delà de demander d'appeler à la démission de Barbara Pompili, vous demandez aussi une chose aux candidats qui se présentent à l'élection présidentielle, et c'est intéressant, vous demandez à ce que l'énergie, le thème de l'énergie sorte du ministère de l'écologie. Pour quelle raison? Là, c'est lié aussi à ce que vous développiez aussi là, à l'instant.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un point très important. On est les premiers à le dire. Et on est un peu les seuls. Et vous savez, le ministère de l'Environnement, au départ, il y avait ce qu'on appelait un ministère de l'Environnement, qui a été créé en 71. Il s'occupait de quoi? Il s'occupait de lutter contre les pollutions, les nuisances, hein, les politiques de l'eau, des déchets, contre le bruit, etc. Et puis, il s'occupe aussi de la nature, c'est-à-dire de la biodiversité, les réserves naturelles, les parcs nationaux, la protection des espèces, la police de la chasse, etc. Et donc, on avait et puis petit à petit, le ministère de l'Environnement est devenu un ministère de l'écologie qui a grandi, qui a enflé, qui est devenu de plus en plus puissant et qui comprend des politiques qu'on n'aurait jamais imaginé mettre au départ, que sont l'énergie, le logement, les transports. Vous voyez, et c'est devenu obèse. Et Le problème, c'est que le ministère de l'Environnement est bien souvent dirigé par justement un idéologue ou un militant vert. Hein, si on reprend qui a été ministre ces dernières années, on se rend compte de ça. Or, un ministre vert, ou en tout cas écologiste, est tout le temps obsédé par la diminuer le plus possible les pollutions, les nuisances. C'est son boulot, je dirais. Or, c'est un vrai danger de lui mettre sous la dent d'autres politiques comme la politique de l'énergie, parce qu'il va tout faire, non pas pour avoir une énergie abondante et bon marché, ça va pas être son obsession. Son obsession, ça va être de réduire les pollutions au maximum. Vous voyez ce que je veux dire? C'est son réflexe premier au ministre de l'Environnement. Et donc, il faut absolument sortir le thème de l'énergie du ministère de l'écologie. Il faut retransformer ce ministère de l'écologie en ministère de l'environnement qui va s'occuper des pollutions, des nuisances et des risques, et aussi des politiques de la nature. Et l'énergie, on peut l'imaginer dans un autre ministère ou dans un ministère de plein exercice où on va finalement sécuriser cette partie-là, et où on va pouvoir avoir une action sur le long terme pour pouvoir le mettre à l'abri de gens dont l'obsession et de diminuer les risques et les pollutions, et dont l'obsession est bien souvent de décroître, puisque aujourd'hui on a des ministres qui sont. Il faut vous rappeler que Madame Pompili a comme père spirituel Yves Cochet, qui est quelqu'un qui demande à ce que la France et le monde d'ailleurs s'engagent dans une décroissance, puisqu'il croit, pour faire simple, à la fin du monde.
Bertrand Alliot sur Sud Radio, je rappelle, hein, vous êtes notamment le porte-parole d'Action Écologie. On a ce débat sur l'urgence climatique, sur l'urgence écologiste. Et vous parlez plutôt, en l'occurrence, d'un discours catastrophiste d'une certaine façon. Et vous défendez une autre forme d'écologie. Comment on peut justement, par rapport à tout ce qu'on entend, tout ce que nous disent les ONG, ce que nous dit encore le GIEC récemment, hein, qui parlait pour le coup de cette alerte rouge pour l'humanité, comment peut-on, dans ce cadre-là, eh bien, ne pas avoir ce côté un peu catastrophiste et l'envisager l'écologie de manière plus positive en tout cas.
Oui, ça c'est en fait notre but premier est effectivement d'être non catastrophiste et deuxièmement de parler que d'écologie et pas de s'égarer sur des sujets sociétaux qui ne sont pas les nôtres. Europe Écologie Les Verts, par exemple, s'égare sur des sujets qui ne sont pas environnementaux. Nous, on reste sur l'environnement. Les 4 700
Parce que c'est un
personnes qui
parti
nous soutiennent
politique.
aujourd'hui. Oui, mais nous aussi, on a beaucoup de gens, vous savez, on a 4 700 personnes aujourd'hui qui nous soutiennent, mais sur un message qui est complètement différent. On est anti-catastrophiste parce qu'on pense que la catastrophe n'est pas certaine. Il y a des sujets environnementaux aujourd'hui qu'on doit régler, qu'on doit traiter, mais pour nous, il n'y a pas de catastrophe qui vient, même sur le sujet climatique. Vous savez, le problème, c'est que on regarde trop les gros titres des journaux et on oublie de regarder les bonnes nouvelles qui existent évidemment et en partie aussi du GIEC. Vous avez cité le GIEC à l'instant, par exemple. Qui sait que le GIEC dit qu'il n'y a pas d'accélération de la fréquence ni de l'intensité des phénomènes extrêmes, pas plus d'inondations, pas plus de sécheresses, pas plus de citrons tropicaux, pas plus de tempêtes hivernales, pas plus de tempêtes de grêle, de vents extrêmes. Tout ça, c'est dans le dernier rapport du GIEC, mais personne ne le dit. Tout le monde focalise
Ça
sur les
dépend
gros
à quelle
titres des
échelle
journaux
on prend, sur
qui est.
quelle.
Oui, à l'échelle globale, puisque c'est ça le GIEC parle, à l'échelle globale, sur tous ces phénomènes que je vous ai cités, il signale qu'il n'y a pas d'augmentation ni de l'intensité, ni de la fréquence. Donc
Parce que
évidemment,
vous
il y
allez
a une.
jusqu'à parler d'une forme de radicalisation, en fait, du mouvement, en partie d'une partie du mouvement écologiste, en fait.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ils nous font vivre dans un climat de peur. Un peu d'ailleurs comme sur un autre sujet que vous traitez, qui est le Covid. On vit véritablement dans la peur, et cette peur nous fait agir dans la précipitation. On veut absolument un traitement de choc. Mais le traitement de choc n'est pas forcément nécessaire. Aujourd'hui, il y a une augmentation des températures moyennes de la Terre de 1 degré à peu près depuis un siècle. Mais en dehors de ça, il n'y a pas eu de catastrophe liée à ce réchauffement. Ce sont des prévisions et en fait, en réalité, vous savez, on ne sait pas ce qui va se passer.
Ça, c'est difficile.
Personne n'est capable
pour les
de
auditeurs
savoir.
Qui nous écoutent, c'est quand même c'est difficile à entendre pour certains. On pense à la tempête Alex dans le sud-est, bien sûr, de la France. On pense aux inondations massives. C'est vrai que pour certains, c'est dur à entendre ce que vous dites aussi.
Non, ce n'est pas dur à entendre. Vous savez, des inondations, des catastrophes météorologiques, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Mais je vous dis, il faut prendre les chiffres à l'échelle globale pour voir s'il y a des tendances. Les tendances aujourd'hui qui existent sont celles des températures moyennes de la Terre. Mais sur tous les phénomènes que je vous ai cités, le GIEC le reconnaît. Il n'y a pas, pour l'instant, ce qu'on croit en fait, on s'excite sur des points qui ne sont pas réels. Donc et en plus,
donc,
on
c'est-à-dire
est en
qu'il
n'y
a
de...
pas d'urgence pour vous. Qu'est-ce qu'on fait alors à ce moment-là, justement?
Mais
est-ce
vous
qu'on
savez,
agit? Est-ce qu'on...
Oui, mais vous savez, il y a beaucoup d'agitation en ce moment sur qu'est-ce qu'on fait. Alors, on ne fait rien. Mais il se trouve qu'on ne fait déjà rien. Je veux dire, toutes les actions qui sont mises en œuvre pour réduire les émissions de CO2, de toute façon, ne fonctionnent pas. Donc, on a en fait des faux-semblants. Par exemple, les COP, hein, on a fait, vous savez, il y a eu... les conférences des partis sur le climat, il y a eu 21 COP. On a monté 21 étages. Et ben on est toujours au rez-de-chaussée, en fait. Il s'est absolument rien passé. On ne fait rien. C'est très difficile d'avoir un impact sur les émissions de CO2, même en dépensant des milliards d'euros comme on le fait actuellement. C'est ce qui se passe. Et en fait, vous n'avez aucun résultat sur la montée du CO2 dans l'atmosphère. Les courbes restent absolument... les mêmes. Donc, de toute façon, on peut s'agiter hein, en dire il faut absolument faire quelque chose, mais de toute façon, on ne fait rien. Ce sujet-là nous dépasse.
C'est ce que vous racontez notamment. Oui, allez-y.
Donc, excusez-moi, je voudrais finir. Donc, c'est pour ça qu'à Action Écologie, on veut absolument montrer que l'écologie ne se réduit pas à la lutte contre le CO2. Et même que focaliser son attention uniquement sur ce sujet-là nous fait faire des bêtises et y compris sur les sujets écologiques, notamment en termes de matières premières, etc. Je vous ai parlé tout à l'heure des forêts des Landes qui étaient remplacées par des panneaux solaires, et même vous avez dans les pays africains où on ne veut pas utiliser les énergies fossiles, enfin en tout cas eh bien vous avez l'utilisation de bois pour l'énergie qui crée des problèmes sur les espaces naturels.
Bertrand Alliot, merci d'avoir été avec nous. On vous reviendra justement pour continuer d'en parler. En tout cas,
avec plaisir.
Merci d'avoir été avec nous ce midi sur Sud Radio. Docteur en sciences politiques, porte-parole de l'association Action Écologie. Et puis je rappelle le titre de votre ouvrage, Une histoire naturelle de l'homme. L'écologie serait-elle une diversion? C'est aux éditions L'Artilleur. Merci à vous et bon réveillon, Bertrand Alliot.
Merci à vous et bonne année 2022 à tous.
Merci. Allez, le midi 13h, c'est fini pour cette année. Un gros merci pour votre fidélité. J'en profite pour remercier aussi toute l'équipe de la semaine sur Sud Radio. Joseph à la préparation de l'émission, Thibaut à la réalisation, Odo Standard, et puis Émilie, Antoine et Audrey au web. Je vous souhaite à tous un très très bon réveillon avec une énorme pensée, bien sûr, à ceux qui vont le passer seul ou à l'isolement. La bonne nouvelle, c'est que vous retrouverez André Bercoff dans tous ses états et en pleine forme dès lundi. Et on le salue au passage. D'ici là, dans un instant, sur Sud Radio, c'est Les Clés d'une Vie avec Jacques Pessis qui reçoit Plantu.